Depuis quelques semaines, plus précisément depuis que le cardinal Ouellet a remis à l'ordre du jour la question de l'enseignement religieux à l'école, on peut lire et entendre dans les journaux et à la télévision à peu près chaque jour des opinions qui tirent dans tous les sens. Alors, pour tenter d'y voir clair dans les faits, plus que dans les opinions, j'ai invité un homme qui, à plus d'un titre, a suivi et connaît bien ce dossier. Il est professeur à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval. Il a été chroniqueur à cette émission pendant des années et il revient comme ça à la demande. Jacques Racine, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'accepter avec autant de spontanéité. Jacques Racine, septembre 2008, c'est l'introduction du cours d'éthique et de culture religieuse dans les écoles du Québec, un cours obligatoire, et il arrive après un long, long processus de transformation et de laïcisation de l'école d'ici. Est-ce qu'on peut remonter jusqu'au rapport parent?
Bien sûr.
Dans ce processus-là?
Vous avez tout à fait raison. Écoutez, au moment du rapport parent, vous savez, c'est au début des années 60, c'est ce rapport qui va conduire à la création du ministère de l'Éducation. Donc, les commissaires, dont faisait partie Mgr Alphonse-Marie Parent, vice-recteur de l'université, les commissaires se posaient la question, l'État devenant responsable, quelle peut être sa position par rapport à la confessionnalité scolaire? Et ils essayaient d'établir des principes, ils ont dit, ben écoutez, l'État, normalement, il y a une neutralité de l'État, c'est-à-dire que l'État ne favorise aucune religion et ne défavorise aucune religion. Puis, il y a aussi la question des droits de la personne, c'est-à-dire la reconnaissance du droit de liberté de conscience et de religion de chaque citoyen, et comment respecter ça lorsque l'État devient responsable. D'autre part, les membres de la Commission étaient bien conscients que l'article 93 de la Constitution de 1867 donnait aux catholiques et aux protestants un certain contrôle sur les commissions scolaires et que depuis ce temps-là, on vivait dans un système confessionnel catholique et protestant. Et que cet obstacle constitutionnel ne les permettait pas d'aller n'importe où. De telle sorte que leurs recommandations, et ça on l'a peut-être oublié, étaient étant donné la situation historique, étant donné l'article 93 de la Constitution, ils recommandaient à l'État d'ouvrir un enseignement catholique, un enseignement protestant et un enseignement non confessionnel pour tous les autres. Donc, il suggérait, lui, qu'on passe de deux systèmes à trois systèmes, protestant, catholique et non confessionnel. Donc, ça, c'était sa proposition pour respecter la Confédération et pour respecter le mieux possible la neutralité de l'État et le droit de conscience et de religion de chaque personne. L'État n'a pas fait ça pour tout un tas de raisons politiques, juridiques, sociales, culturelles, historiques, etc. Et aussi pour des questions d'organisation, on était en pleine réforme. Donc, nous avons continué de la même façon. Sauf que par la suite, évidemment, on voyait que le climat au Québec changeait. Mais aussi, il y a eu un acte assez important en 1982, c'est la Charte canadienne des droits, avec ce fameux article 2 de la liberté de religion et de conscience. Et là, face à cette charte, les lois du Québec pouvaient être considérées comme inconstitutionnelles, comme incorrectes par rapport à la charte. Et c'est à partir de ce moment-là que le gouvernement est obligé d'utiliser ce qu'on a appelé des clauses dérogatoires ou nonobstant, leur permettant de continuer le système catholique et protestant malgré la charte. Mais la Constitution, par un article, leur permettait d'utiliser cette clause-là. À toute législature, elle permet ça, mais il faut qu'à ce moment-là, l'Assemblée nationale dise « oui, je vais contre la charte ». Et elle a cette permission-là seulement pour 5 ans. À tous les 5 ans, on doit retourner au Parlement fédéral pour redemander une clause dérogatoire. Alors ça a commencé en 82. Mais il ne faut pas oublier, il n'y a pas juste les lois, il y a aussi la population, etc. De telle sorte que dès 83, on a permis désormais à ce qu'il y ait une option entre l'enseignement moral ou religieux, catholique ou protestant, et la morale. Autrement dit, pour respecter l'esprit de la charte, on a commencé par offrir l'option entre morale et enseignement religieux, catholique ou protestant. C'est la même année, en 83, que l'Église a décidé que désormais elle préparerait les sacrements dans les paroisses. Elle a commencé à récupérer une partie de ce qu'elle de ce qu'elles faisaient à travers le réseau scolaire, l'éducation de la foi. Elle a récupéré une partie de ça, déjà dans la paroisse en 83, la préparation au sacrement, et elle a changé l'enseignement de la catéchèse à enseignement moral et religieux catholique dès 83. La même année, donc, que le choix entre les types d'enseignement ouais. pour les parents ou les élèves. En 87, on a permis aux enseignants, désormais, d'être dispensés de donner l'enseignement religieux catholique dans les écoles, d'être dispensés de ça par respect pour leur liberté de conscience et de religion. Donc, dès 87.
Donc, à ce moment-là, ça prenait quelqu'un, pour donner cet enseignement-là, ça prenait quelqu'un qui était formé et qui adhérait...
Souvent, comme c'était au primaire, parce qu'au secondaire, c'était des spécialistes. Ouais. Au primaire, souvent, on s'échangeait ça entre collègues. Toi, tu donnes la morale, moi, je donne la religion, etc. Ça se faisait sans trop de mal, parce que, en général, et quand ça devenait trop difficile, évidemment, il fallait qu'on engage un remplaçant. Mais disons que ça se passait passablement bien, même si au niveau de chaque classe, là, il commençait à y avoir des groupes qui se formaient, ceux du religieux puis ceux du moral, et des fois des amis se retrouvaient pas dans les mêmes groupes, etc. Mm-hmm. Mais c'était la situation.
Et c'était l'Église ou le Conseil supérieur de l'éducation ou je sais pas le titre exactement qui décidait du contenu de ces cours-là, le cours de catéchèse.
C'était le comité catholique.
Le comité catholique.
Bon, mais le comité catholique était un comité du ministère de l'éducation. Il faut bien comprendre ça. Hein. Même si c'était un comité confessionnel, c'était un comité qui dépendait du ministère et qui était un peu au chapeauté par le sous-ministre de foi catholique qu'il y avait au ministère, comme il y avait un sous-ministre de foi protestant.
Ouais. Dans le processus, si on veut sauter peut-être un peu des étapes, mais là, à partir de 87-88, là, ce que vous venez de mentionner, ça va se maintenir à peu près comme ça pendant, je dirais pas une dizaine d'années, mais peut-être. On arrive autour de 95, les États généraux et...
Exactement. Donc, les États généraux de l'éducation 95, et à la fin des États généraux, de façon majoritaire, les gens demandent, de fait, la laïcité au plan de l'école. Ils demandent que l'école soit laïque, étant donné la diversité religieuse, étant donné, moi, ce que j'appelle aussi la distanciation des croyants eux-mêmes par rapport aux institutions religieuses. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on parle beaucoup de pluralisme au Québec, mais il y a aussi le pluralisme à l'intérieur même de ceux qui se disent catholiques ou qui se disent protestants. Il y a aussi, je dirais aussi, les distanciations, même parmi ceux qui se disent catholiques et pratiquants, il y a certaines distanciations et il y a certains objectifs éducatifs par rapport à la qualité de l'enseignement qui font que ces gens-là, quelquefois, sont un peu moins empressés par rapport à l'aspect confessionnel de l'école comme tel, ou à l'aspect même de l'enseignement religieux, parce qu'ils recherchent tellement de choses pour les enfants, ils ont tellement de préoccupations éducatives, que souvent, cette question-là n'a pas tout le poids qu'elle aurait pu avoir dans l'école.
Mm-hmm. Donc, ce mouvement vers la laïcisation va amener la création. Est-ce que c'est cette volonté-là qui amène la création du rapport Prou?
Exactement. Suite donc à l'orientation majoritaire des États généraux, la ministre du temps prend deux décisions. D'une part, avec l'appui assez majoritaire de tous, elle décide de demander que les commissions scolaires confessionnelles catholiques et protestantes deviennent des commissions scolaires linguistiques. Mm-hmm. Et que désormais, donc, on retrouve dans une même commission scolaire française des catholiques, des protestants et tous les autres. Mm-hmm. Et dans la commission scolaire anglaise, désormais, t'as à la fois des catholiques, des protestants, et ça a demandé un certain ajustement qui n'a pas toujours été simple parce que c'est des cultures d'école assez différentes. Donc, tout ça est regroupé déjà dans les commissions scolaires, et en même temps, elle met sur pied ce qu'on a appelé la commission Prou, mais qui était une commission sur l'avenir de la religion à l'école, et qui a donné lieu au rapport, le rapport Prou, qui lui-même, de fait, après avoir fait de nombreuses recherches, etc., propose... que désormais l'école ne soit plus confessionnelle et que au plan de l'enseignement que l'on enseigne un cours pour tous, un cours qui s'appellerait un cours de type de culture religieuse. Hein. Ça c'est ça, c'est grande recommandation. Et là on commence à citer un bon débat là.
Ouais.
Là à partir de ce moment-là le débat commence autour du rapport d'abord et ensuite en commission parlementaire.
Dans la commission parlementaire, c'est une des commissions parlementaires qui a suscité le plus d'intérêt. Si on compte le nombre de documents qui ont été déposés et le nombre de jours qu'on a consacrés à entendre...
On dit que c'est une des plus importantes. Hein. Il y a eu au-delà de 256, je crois, au-delà de 255 mémoires présentés à la commission venant de toutes sortes de groupes. Mm-hmm. Il y a eu 60 jours d'audience. C'est très rare que les députés dans une commission siègent 60 jours. Hein. 60 jours, c'est plusieurs semaines, ça passe. Vous savez qu'ils siègent pas tous les jours.
Oui, oui, oui.
Hein, parce qu'il faut qu'ils aillent aussi dans leur région, dans leur comté, etc. Ouais. Donc, 60 jours complets d'audience. Vaste débat à la télévision, dans les revues, dans les journaux, mais à l'Assemblée nationale même. Et vous savez, moi j'étais à ce moment-là, ben, je suis toujours professeur de théologie, mais nous avons nous-mêmes présenté un rapport à cette commission, un mémoire, et la faculté de théologie de Montréal en a présenté, mais aussi les églises en ont présenté, l'Assemblée des évêques du Québec a présenté un mémoire, c'est évident, des groupes comme Justice et Foi des Jésuites ont présenté des mémoires, mais il y avait aussi tous les groupes qui s'occupent d'éducation, les parents catholiques, etc. Tous ces gens-là ont présenté, écoutez, au-delà de 250 mémoires. Bon, vaste débat.
Est-ce qu'on va trancher au plus grand nombre? Est-ce qu'on va trancher sur la pesanteur des de l'argumentation? Comment on arrive au terme de cette commission parlementaire à tirer des grandes lignes? C'est qui l'emporte?
C'est un peu le jugement de Salomon. C'est que
il y en avait 125 de l'un, 125 de l'autre.
L'Assemblée nationale a décidé à ce moment-là de prendre une double orientation. D'une part, avec la loi 118, avec la loi 118, on décide de déconfessionnaliser les structures de l'éducation. Mm-hmm. Donc, on déconfessionnalise. Il y aura plus de sous-ministres de foi catholique ou de protestante. Il y aura plus de comité catholique ou comité de protestant. Il y aura plus d'école catholique ou protestante. Donc, on déconfessionnalise les structures.
C'est à ce moment-là là, que les commissions scolaires linguistiques s'installent.
Non, sont installées avant.
Sont installées.
Dès 98, je crois.
OK.
Et en 2000, donc là, c'est l'école qui cesse d'être confessionnelle, les sous-ministres, tout ce côté-là disparaît aussi, et les animateurs à l'animation pastorale deviennent des animateurs à la vie spirituelle et à l'engagement communautaire ouvert à tout le pluralisme qui existe dans l'école.
Et le cours d'enseignement religieux
se continue. Donc, l'État redemande une clause dérogatoire, mais seulement pour la partie enseignement religieux. Et là, on reste avec un enseignement moral et religieux catholique, enseignement moral et religieux protestant, et un enseignement moral. Mais comme il n'y a plus d'école catholique protestante, c'est que chaque école se voit obligée, c'est une école commune, inclusive, etc., chaque école se voit obligée d'offrir les trois s'il y a du monde qui le demande.
Oui.
Vous voyez un peu, là, ça commence à se compliquer, là, parce que là, tu choisis plus ton école, tu vas n'importe quelle école, puis t'es supposé avoir
le service que tu veux.
Un des trois. D'accord? Alors ça, c'est donc c'est là que je dis, ça a coupé la poire en deux. D'une part, les structures, et c'est pas là-dessus que se faisait surtout le débat, les structures deviennent des structures communes, inclusives, etc. Et l'enseignement, ben, on demande encore une dérogation pour 5 ans. Mais c'est évident que dès ce moment-là, ça commençait à être difficile à organiser. Et il se passait aussi que les gens étaient un peu restés avec l'impression qu'il y aurait de moins en moins de religion à l'école. Et là, ça devenait difficile de garder des enseignants. Parce que les enseignants aussi pensaient à leur type de tâche. Il y avait une diminution des heures d'enseignement au niveau scolaire à ce moment-là. Les tâches devenaient énormes pour les enseignants. Et certains d'entre eux ont été prendre des formations parallèles pour pouvoir enseigner d'autres cours, etc. Et donc, il y a eu comme une espèce de difficulté réelle à gérer cette décision-là, surtout au niveau de l'école secondaire, où on manquait des spécialistes, où c'était des fins de tâches, etc.
Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on décide que ce cours-là va changer, ou si c'est devant la difficulté d'organiser ça dans chaque école, ces trois formules-là, qu'on dit, ben là c'est
écoutez, ça ne ministre pas, à partir des années 80, donc, on s'en va vers on a pris cette décision de garder l'enseignement moral et religieux catholique protestant et d'offrir l'enseignement moral. On reste là-dessus, mais là, ça devient diversifié dans l'école parce qu'il n'y a plus d'école catholique. Arrive, mais on voit qu'il y a une certaine difficulté à tout organiser cette affaire-là. Et les gens ont l'impression que ça va disparaître. Beaucoup de gens ont l'impression, bon, c'est la fin de tout ça, il n'y aura plus de religion à l'école. Et là, quand commence à arriver l'approche de 2005, où il faut renouveler la clause dérogatoire, parce qu'on l'a renouvelée à tous les 5 ans, les gens se disent, est-ce que le gouvernement va les renouveler? Il y en a qui disaient, ben, renouvelez-les pour que c'est trop jeune le nouveau système. Il fallait refaire le programme, même le programme d'enseignement catholique, et l'enseignement protestant devait être refait pour tenir compte que les écoles étaient des écoles qui n'étaient plus confessionnelles. Donc, dans cet enseignement-là, même les catholiques commençaient à parler des autres religions. Parce que ils étaient conscients de la pluralité des gens qui étaient là, qu'ils côtoyaient, et de cette possibilité qu'il y ait des protestants, puisque l'école ne l'était plus. Donc, il y avait toute une évolution qui était en train de se faire dans la pratique aussi des gens, comme je le disais tout à l'heure, une certaine indifférence, quelquefois, etc., la complexité de la réforme scolaire pour elle-même, toute la grande réforme de l'école québécoise dont on parle aussi, tout ça se passait en même temps. Donc, on attendait de voir qu'est-ce qui arriverait en 85 face au diagnostic qu'on pouvait porter sur la question. En 2005, oui, je m'excuse. Oui. Face à la situation. Ouais,
et c'est ce qui va amener la loi 95. On s'arrête tout de suite.
C'est ce qui va amener la loi 95 en 2005.
On en parle tout de suite. On mentionne, Jacques Racine, qu'on arrive à la loi 95 en 2005 parce que la fameuse clause dérogatoire doit être redemandée. Est-ce qu'on pouvait redemander la clause dérogatoire indéfiniment ou s'il n'y avait pas un terme? Là, il me semble qu'à l'époque, on disait c'est la dernière fois qu'on peut le demander.
Non. Il n'y a pas de terme comme tel, mais... évidemment que faut la redemander à tous les 5 ans. Deuxièmement, c'est sûr que plus ça allait, plus les membres de l'Assemblée nationale étaient un peu à la gêne de renouveler sans cesse cette clause dérogatoire, parce que tu finissais par dire, écoutez, on a une charte de droit, mais nous, on demande d'y déroger. C'est ce que ça voulait dire.
Oui.
Donc, il y avait un certain malaise qui existait là-dedans, et ce malaise-là était en même temps... lié aussi à l'évolution de la situation québécoise quant au domaine du religieux. Donc, les deux choses jouaient. Il y a certains malaises de toujours demander des dérogations, etc.
Ça amène donc le gouvernement à proposer la loi 95. Y a-t-il eu consultation à nouveau autour de cette loi-là ou avant dépôt de cette loi-là?
Disons deux choses. Juste avant le dépôt de la loi, le comité sur les affaires religieuses, qui était un comité aviseur au ministre, avait publié un avis au ministre lui suggérant quelque chose qui s'intitulait « Éduquer à la religion » et qui suggérait qu'il y ait un cours, un unique cours offert dans toutes les écoles autour de l'éducation à la religion.
Donc, et qui forme ce comité-là? Des catholiques, des protestants de tout le monde?
Aucun.
C'est pas ce titre-là.
C'est formé, ça le remplacé d'une certaine façon, mais pas tout à fait avec les mêmes droits, les comités protestants catholiques. Donc, c'est formé de parents du primaire, de parents du secondaire, d'enseignants du primaire, d'enseignants du secondaire, de représentants des cadres, et de 4 universitaires, théologiens ou philosophes.
Et on leur demande pas s'ils sont catholiques ou protestants.
Ce n'est pas comme ça qu'est défini le comité.
D'accord. Donc, le comité fait une proposition au
ministre. Fait un avis, donne un avis. C'est pas une proposition, c'est un avis. Et il faut se rappeler qu'il y avait aussi derrière ça encore l'avis de la commission Proulx qui restait là. Et là, les gens commençaient à prendre, quand ils ont vu que la question se présentait, est-ce qu'on doit demander la clause dérogatoire ou ne pas la demander? C'est évident que les gens qui s'occupaient des droits et libertés de la personne prenaient position pour dire qu'on ne devait pas redemander la dérogation. D'autres disaient il faut la redemander au moins pour nous laisser le temps d'essayer ce qu'on a commencé seulement depuis l'an 2000. D'autres le demandaient à partir d'une continuité avec l'ensemble de l'identité québécoise, etc. Donc, on a recommencé à avoir les positions qu'on avait eues dans les années 99 après le rapport Proulx. Sauf que cette fois-ci, il y avait quand même des choses qui avaient été réglées en l'an 2000. Et donc, le débat s'est pas mal situé sur les 3 propositions du rapport Proulx. Donc, celle qui suggérait un choix d'enseignement à une diversité d'enseignements confessionnels ou à un enseignement non confessionnel, donc, qui ouvrait non seulement l'enseignement protestant ou catholique, mais à tout groupe qui avait un nombre suffisant, qui aurait pu avoir un enseignement sur l'islam, un enseignement sur le judaïsme, etc. Oui. Donc, c'était ça, donc, d'ouvrir à tous les groupes religieux ou d'ouvrir un enseignement non religieux ou moral. Oui. Ça, c'était la première option. La deuxième option, c'était d'ouvrir à tous le cours de culture religieuse. Et la troisième option, c'est de ne rien avoir de religieux à l'école. Alors, là, les groupes se sont encore resitués par rapport à ces 3 questions-là, mais ces 3 propositions du rapport Proulx, les 3 respectaient la neutralité de l'État Et les trois respectaient la liberté religieuse. La première, c'est celle qu'on appelle communautarienne. On reconnaît les différentes religions et on leur offre les mêmes services. Donc, l'État peut faire ça. Il offre les mêmes services dans la mesure où il y a assez de monde. Et il offre à ceux qui n'en ont pas un autre cours. La deuxième, c'est qu'on offre tout à tout le monde la même chose.
Un cours commun.
Puis le troisième, c'est qu'on sort la religion complètement de l'école.
C'est ça. Le cours commun, bien sûr, qui n'est pas un cours d'éducation à la foi.
Qui n'est pas un cours confessionnel, qui n'est pas un cours d'éducation à la foi, qui a un cours qui veut favoriser, en tout cas, c'est les premiers échos qu'on a là, du projet de programme qui est maintenant un peu connu, de fait. Dans ce projet-là, on dit très clairement que ce qu'on cherche, c'est que on cherche que de favoriser la reconnaissance de l'autre dans tout ce qu'il est. Et si l'autre est un croyant, de le reconnaître, l'autre, aussi dans ce que signifie pour lui sa foi, que ce soit parce qu'il est catholique, parce qu'il est protestant, ou ce que signifie pour lui des convictions, si elles ne sont pas religieuses, mais ces convictions ont aussi à faire avec sa vision du monde, avec ce qu'il est. Donc, c'est un cours qui vise à reconnaître l'autre dans la pluralité dans laquelle il s'offre, mais à reconnaître chacun des autres, en comprenant dans l'autre aussi qu'il peut être un être religieux, et c'est aussi de favoriser le vivre ensemble dans cette diversité-là, pour qu'on puisse faire des projets ensemble dans la société, dans la collectivité, et qu'on puisse vivre dans une certaine paix et justice entre nous.
Quand vous mentionnez, Jacques Racine, que différents groupes, au moment où le ministre doit redemander la clause dérogatoire, différents groupes se prononcent, disent bon, on veut ci, on veut ça, on voudrait ci, on voudrait ça. Est-ce que il s'acharne à dire des choses que le ministre veut pas écouter, ou s'il y a vraiment une consultation à ce moment-là, le ministre écoute tout ça, il va prendre une décision qui va s'inscrire dans la loi 95?
Écoutez, il faut distinguer quand même l'importance de la consultation de 99 qui a donné, et de l'an 2000, qui a donné à l'an 2000, de celle de 2005. On ne reprend pas des grands débats de société comme ça tous les 5 ans, c'est complètement essoufflant. Donc, c'est évident que l'importance de la consultation, l'importance de la prise de parole publique a été beaucoup moins forte en 2005 qu'en 99, après le rapport Proulx.
Mais il y en a eu.
Mais il y en a eu. Et il y a des groupes qui ont fait des mémoires aussi, en nombre moins important. Et il y a eu une décision du ministre qui a été certainement, d'une certaine façon, inspirée par les groupes qui avaient réfléchi sur ces questions-là. Et aussi, comme je le disais, inspirée par l'évolution de la société québécoise, la complexité de l'organisation scolaire actuelle. Et il ne faut pas oublier une organisation scolaire où, dans beaucoup de régions, il y a une diminution forte de la clientèle scolaire qui conduit à la fermeture d'écoles primaires, etc. Vous comprenez qu'organiser la diversité à l'intérieur de ça, c'est une complexité dont le ministre a certainement tenu compte, en plus de tenir compte toujours, je crois, depuis longtemps, de la question posée par la question de la neutralité de l'État et la question aussi des droits de chacun.
À votre connaissance, l'Assemblée épiscopale du Québec s'est fait entendre avant la loi 95?
À mon sens, l'Assemblée des évêques du Québec s'est fait entendre soit directement, soit par son comité d'éducation dans à peu près toutes les fois où il y a eu des débats à ces niveaux-là. Je pense que c'est son rôle et c'est ce qu'elle fait. Quelquefois, c'est l'Assemblée elle-même, quelquefois, c'est le comité d'éducation qui est l'intermédiaire assez régulier dans le quotidien des choses sur ces questions-là. Mais sur les questions les plus importantes, c'est l'Assemblée des évêques qui prend la parole sur ces questions-là.
Jacques Racine, on sait que l'éducation à la foi, c'est d'abord réservé à la famille, c'est réservé aux parents. Après ça, ça fait partie de la responsabilité des églises, l'éducation à la foi de leur commettant. De leur retirer de l'école, est-ce que c'est brimer le choix des parents?
Bon, écoutez, cette question est assez importante. Dans beaucoup de sociétés, elle ne se poserait même pas parce qu'ils n'ont jamais connu d'autre chose. Ouais. Évidemment qu'ici, nous avions un régime qui durait depuis très longtemps et qui était un régime où, d'abord, jusqu'en 64, il faut bien le dire, pour une période de près d'une centaine d'années, ce sont les communautés, les églises, ouais, qui avaient une certaine responsabilité, mais leur responsabilité était quand même pas immédiate. Ça passait aussi par les commissions scolaires. Il faut bien dire qu'il y avait aussi des commissions scolaires, mais évidemment beaucoup des écoles étaient aussi tenues par des religieux, des religieuses, qui sont disparus là. Pas seulement pour des raisons que l'éducation changeait, etc., mais pour des raisons d'évolution au plan de l'Église elle-même. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que pour le Québec, c'était un passage, mais tout à l'heure, je vous signifiais qu'il y avait quand même eu des petites, je dirais, des prises de conscience depuis les années 80 de ce passage-là. En 60, les commissaires, mais dès les années 82-83, l'Église elle-même avait commencé à rapatrier l'initiation au sacrement. Mmh. Dans beaucoup de lieux d'Église, on se disait, écoutez, il faut reprendre toute la question de l'éducation de la foi. Et en septembre de cette année, vous avez sans doute remarqué, vous qui êtes journaliste, que l'Assemblée des évêques a fait une vaste campagne pour inviter toutes les communautés paroissiales à offrir et à prendre en charge toute l'éducation de la foi, à la fois celle des adultes, celle des enfants, celle de la famille. Ils ont fait une magnifique campagne, me semble-t-il, mm-hmm, pour inviter les gens à s'investir à l'intérieur de ça.
Le fameux cours qui est présentement à l'essai, qui va être revisé et qui deviendrait effectif en 2008, a été construit au ministère de l'Éducation, bien sûr, avec consultation de représentants des diverses confessions, parce que c'est un cours qui touche toutes les religions. Là.
Disons deux choses. C'était construit comme tous les autres cours, d'abord. Hein. Il y a toujours un groupe qui construit le cours avec l'aide d'experts, etc. Ça construit de cette façon-là. Un cours s'est construit, il y a comme un premier projet. Ce premier projet, il a été mis sur la table en septembre de cette année. Et sur ce premier projet, il y a trois choses qui se passent. Il y a premièrement quelques écoles où on fait l'essai du projet pour tirer de l'essai qui est là certaines conséquences pour reviser la première version en fonction d'une adoption par le ministre d'une version définitive. Donc, il y a quelques écoles qui l'essaient. Deuxièmement, pour chaque programme, il y a toujours une consultation de ce qu'on appelle les milieux de l'éducation. Il y a à peu près 25 ou 30 grands regroupements qui sont toujours consultés, quel que soit le cours, sur un projet avant la version définitive. Et troisièmement, pour ce cours-là, le ministre a donné un mandat spécifique au Comité sur les affaires religieuses pour faire une consultation auprès des groupes religieux, des groupes intéressés, des personnes intéressées. Le Comité sur les affaires religieuses a fait cette consultation à l'automne 2006. Il l'a fait évidemment par écrit, il a invité chaque groupe religieux à faire des consultations lui-même, mm-hmm, de la façon pour ne pas l'influencer, mais c'était pas à lui à choisir comment se faisait la consultation. D'accord. Parce que tu as des lieux très hiérarchiques comme l'Église catholique ou c'est une assemblée d'évêques. Tu as d'autres religions où presque chaque communauté est indépendante. Donc, il faut essayer de voir comment on touche à ça. Donc, il fallait essayer de voir. Donc, il y a eu une consultation auprès de groupes religieux, de groupes intéressés. Elle s'est faite à l'automne. Il y a eu une réunion de tout ce monde-là à la mi-septembre pour leur indiquer comment travailler sur ces questions-là. Il y a eu une autre réunion le 1er novembre pour leur donner un premier feedback et pour assurer la façon dont la consultation s'était faite. Et le Comité sur les affaires religieuses est supposé faire rapport de cette consultation et par la suite donner un avis au ministre avant qu'il approuve, ouais, une version corrigée, très probablement, de ce cours dont la version première était en septembre 2006.
C'est ça. Dans les circonstances, ce sera le prochain ministre de l'Éducation. Mais très, très rapidement, Jacques Racine, parce qu'il nous reste peu de temps, mais je voudrais presque en rafale, dans ce cours, toutes les religions sont présentées sur un pied d'égalité ou si on accorde plus d'importance à certaines qu'à d'autres?
Dans les orientations que le ministre a prises dès l'an 2005, il indiquait qu'il fallait qu'il y ait une place particulière pour l'héritage religieux québécois.
Donc, catholiques et protestants?
Catholiques et protestants particulièrement.
Les religions amérindiennes sont touchées également.
Autre
question, le programme va être obligatoire à partir de 2008 dans toutes les écoles, qu'elles soient publiques ou privées.
Exactement.
Mais les écoles privées peuvent donner un enseignement d'éducation à la foi, un enseignement religieux particulier, ce n'est pas interdit. Ils sont obligés de donner le cours d'éthique et de culture,
oui,
mais ils peuvent donner un autre.
Tout à fait. Ils sont obligés de donner le cours parce que le cours a aussi des objectifs du vivre ensemble, de l'éducation, la citoyenneté, à la pluralité, etc. Mais toute école privée peut ajouter et donner un cours confessionnel à son choix, mm-hmm, comme l'école privée actuellement donne d'ailleurs des cours particuliers. C'est ce qui la distingue de l'école publique.
Oui. Jacques Racine, en 30 secondes, même pas, 15, est-ce qu'on est si différent que ça au Québec? Comment ça se passe ailleurs au Canada?
Ça se passe de façon très différente d'une province à l'autre. Et en 30 secondes, je pourrais pas y répondre.
Est-ce qu'il y en a qui ont les mêmes problèmes?
Écoutez, là, il faut jamais oublier une chose. Hein. Il y a aussi la question de l'identité qui joue là-dessus. Et on voit très bien que dans les débats actuels, autant sur cette question que sur les questions d'accommodement raisonnable, que peut-être même sur les questions actuelles d'une campagne politique, la question de l'identité des Québécois, de l'identité culturelle des Québécois et des liens entre culture et foi, culture et religion plurielle, est une question qui est tout à fait... qui reste une question qui n'est pas tout à fait réglée au Québec, qui dérange et qui est toujours présente dans les débats importants que nous avons dans des questions comme celle de l'éducation.
Merci Jacques Racine.
Je vous remercie.